Vous écoutez Quoi de Neuf sur Radio Campus comme chaque mercredi jusqu'à 18h. Et là, notre deuxième séquence est consacrée à Gesture, ou Gesture si vous voulez, un programme de traduction en temps réel en langue des signes. Pour parler de ce projet, j'ai invité trois étudiants donc, qui vont se présenter individuellement. Alors, il y a Fabien Fabre. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors, donc toi, tu es dans quelle école ?
Comme mes deux camarades, nous sommes, je suis à Epitech Lille. Mm-hmm. Et du coup, on étudie l'informatique et Gesture, c'est un projet qu'on a monté dans le cadre de nos études, justement.
Alors, à côté de toi, Clément Dumont. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors, toi aussi, tu es donc à Epitech, dans le même cursus de formation ?
Tout à fait, même cursus, même formation, développeur du projet de Gesture. Mmh. En compagnie de mes 8 camarades.
En quelle année alors ?
Troisième
année. Et puis Baptiste Destalminil.
Bonjour.
Bonjour. Donc une équipe qui compte 8 personnes, je crois.
C'est ça.
Et donc vous êtes 3 représentants.
Oui, les autres avaient beaucoup de travail, donc
j'imagine.
On est venu les représenter.
Alors, donc on va présenter à la fois cette école, ses spécificités, et puis votre projet, en quoi il consiste et comment il s'inscrit dans un parcours d'études, si vous le voulez bien.
Alors pour commencer, l'école donc Epitech, c'est une école d'informatique, où on est vraiment centré sur la programmation, c'est-à-dire qu'à la différence d'une école d'ingénieur, nous sommes vraiment sur une formation à base de projets et de développement, et aucune autre matière autre que l'informatique, on va dire.
Cette école se situe où ?
Au niveau de Riour, sur l'île.
Mmh. Et donc, pour compléter ce cursus que vous avez entrepris, il dure combien d'années ?
Il dure 3 ans.
3 ans, et vous terminez là, cette année ou...
Il dure 5 ans, excusez-moi.
5 ans, oui, c'est ça.
5 ans.
Donc, jusqu'en master, c'est ça ?
C'est ça.
Et avec une partie peut-être ensuite à l'étranger, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout
Exactement.
À l'heure.
Exactement.
Très bien. Donc, dans le cadre de vos études, vous avez conçu un projet, ça s'appelle Gesture.
Oui.
Et on va peut-être préciser ses objectifs et en quoi il consiste exactement, pour voir un petit peu les étapes de réalisation et vos avancées donc, dans ce domaine.
Eh bien oui, en effet, on a commencé à développer Gesture qui est un projet donc, dans le cadre de nos études. On a fait beaucoup d'idéations sur le sujet. C'est un sujet qui va permettre aux sourds et malentendants de pouvoir accéder facilement à toute diffusion en direct, que ce soit diffusion vidéo sur Internet, que ce soit conférence, voilà.
Donc l'idée, c'est de créer une interface, on va dire ça, entre des gens qui parlent dans un écran ou non, et puis un public de malentendants, ou bien c'est plus que ça ?
Le but, ce serait en fait de faire une sorte de traducteur, qui permettrait aux malentendants de comprendre la langue française, c'est-à-dire en intégrant un avatar sur un support de présentation ou une vidéo.
Mmh. Est-ce qu'il y a déjà des concurrents ou des exemples dans ce domaine-là, ou vous êtes des défricheurs ?
Alors, dans le domaine, il y a, pour la France, il n'y en a pas encore, mais on peut en trouver, par exemple, au Brésil. Donc, la langue des signes du Brésil, parce qu'il y a une langue des signes qui... Enfin, les langues des signes varient selon les pays et les langues. Mmh. La langue des signes au Brésil, donc du portugais, c'est Libras. Et il y a un début de solution qui commence pour Libras, qui est c'est une sorte de Google Traduction du portugais vers Libras. C'est-à-dire que ça s'appelle HandTalk. Mais c'en est encore à ses débuts, c'est-à-dire que la traduction, c'est qu'ils prennent un mot et ils vont faire de la traduction mot à mot. Et donc voilà, c'est pas du tout adapté pour l'instant, donc c'est encore en début, c'est en développement, c'est sponsorisé par Google notamment. Donc ça se développe, mais c'est pas encore d'actualité. Et après on peut retrouver d'autres qui sont plus qui fonctionnent mieux, mais qui sont semi-automatiques, c'est-à-dire qu'il y a une solution de traduction, mais derrière il y aura toujours un humain traducteur qui va être derrière et qui va apporter des modifications ou préparer la traduction pour qu'elle soit adaptée.
Donc Adrien, tu disais qu'il y a pratiquement autant de langue des signes que de langage dans les pays que tu vas peut-être irriguer en solution.
Oui.
Pourquoi il y a autant de différences ? On aurait pu imaginer une langue des signes universelle ? Non, c'est pas possible.
Pour moi, c'est la même raison que qu'on n'a pas juste de l'anglais ou du français partout dans le monde, c'est simplement qu'avec le développement, avec les cultures, enfin, la diversification de l'humanité, des personnes vont reprendre la langue qui existe et puis la modifier, faire un dialecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans la langue des signes française, d'un sourd à un autre, deux personnes ne vont pas parler exactement de la même façon, de la même façon que nous, on ne parle pas de la même manière le français à Lille qu'à Marseille, par exemple. Et voilà, et ce sont la diversité géographique des langues. On va simplement se retrouver avec différentes langues des signes, avec l'évolution dans le temps, avec l'évolution géographique.
Donc j'imagine que vous allez travailler avec des spécialistes de langue des signes de tous les pays qui vous intéressent. Vous avez déjà des contacts?
On est en contact avec une association sur l'île qui s'appelle Signes de Sens, du coup, qui s'occupe un peu de la formation de la langue des signes pour ceux qui le souhaitent, en entreprise ou de manière personnelle, qui nous ont proposé de travailler en coopération et on travaille un petit peu avec eux en ce moment. On doit encore régler les détails, mais voilà.
Et donc cette association-là aussi a des partenaires à l'international ou vous allez seulement commencer à défricher ce domaine ?
On reste principalement sur la langue des signes française actuellement, parce que comme l'a dit Adrien, en fait, le marché est attaqué un petit peu côté anglais et côté espagnol. Et comme ce sont des langues assez différentes de la nôtre, on préfère s'attaquer au marché français qui n'a pas vraiment de solution pour le moment.
Quand on dit marché, ça veut dire beaucoup de personnes en France qui pourraient être intéressées par le dispositif, hein, sachant que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un écran pour se faire entendre, comprendre, pour être compris.
C'est-à-dire que là, en France, on compte environ 100 000 personnes qui ont fait de la langue des signes leur langue principale. Pardon. Et donc, c'est les 100 000 personnes qui simplement préfèrent avoir une interface de langue des signes par rapport à du parler ou de l'écrit. Et donc, c'est énormément de personnes. C'est-à-dire que c'est 50 000 personnes en France qui naissent sourdes, donc qui apprennent simplement la langue des signes et sont des personnes qui ont du mal, des problèmes de lecture. C'est-à-dire qu'on considère qu'un enfant sourd plus de la moitié des enfants qui naissent sourds ont un niveau de compréhension écrite équivalent à celle d'un dyslexique adulte. Donc c'est des sérieux problèmes de compréhension. Et c'est pour ça que le support simplement écrit, par exemple, on pourrait imaginer du sous-titrage, n'est pas du tout forcément adapté à chaque personne malentendante.
Alors, comment les personnes malentendantes peuvent éventuellement vous aider, participer, collaborer à votre projet ?
C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on a commencé il n'y a pas très longtemps, donc comme on le disait, il y a un peu plus d'un mois, et on ne connaît pas encore la langue des signes, on a encore on a des débuts de base, mais on n'a pas encore fait de formation, et simplement parce qu'on propose une solution pour des personnes, pour les aider à juste accéder à certains contenus. Mais si on développe cette solution indépendamment des personnes que l'on vise, on va faire quelque chose qui ne sera simplement pas adapté. Et que si on ne comprend pas les personnes qu'on vise, la solution qu'on va proposer n'aura aucun sens.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des situations dans lesquelles votre dispositif sera vraiment très important ? Il aura sa valeur ajoutée, on va dire.
Alors, j'ai un exemple. C'est-à-dire une solution qu'il y a et qui est déjà mise en place en France. C'est avec des vrais traducteurs, c'est à la télévision, par exemple sur Public Sénat, où c'est quelque chose d'important. La politique en France, c'est-à-dire qu'on veut que chacun puisse être capable de faire des choix dans son pays, de choisir ce qu'il veut pour lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur des chaînes, très peu de chaînes, mais des chaînes notamment politiques, on va chercher à faire ce doublage. C'est-à-dire que c'est de l'accès à l'information à laquelle certaines personnes ne peuvent pas accéder. Alors, et donc là, c'est l'exemple de la télévision. Après, on peut reprendre quelque chose comme, par exemple, sur YouTube. YouTube, c'est une énorme source d'information. On peut apprendre énormément de choses sur YouTube. On peut se former à plein de trucs. Mais il n'y a pas de solution pour adapter, en tout cas, pour les malentendants ou les sourds. Et après, on peut trouver plein d'autres exemples. À la télévision, il y a des exemples peut-être moins importants. Par exemple, le sport, même s'il n'y a pas d'équivalence, c'est peut-être moins important que la politique, mais ça reste quelque chose à laquelle n'importe qui devrait pouvoir accéder. Et voilà, donc c'est comme tu disais avant, Clément, la télévision, il y a des conférences aussi, c'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire une présentation et d'apprendre à plein de personnes un domaine que moi, je connais et que j'ai envie de partager, et bah, c'est super, il y aura plein de personnes entendantes qui vont pouvoir y assister et comprendre ce que je dis, et il y aura énormément de personnes, de sourds, qui pourront simplement pas venir et accéder à cette connaissance.
Alors, si j'imagine plus loin les choses. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les interprètes en langue des signes de ces chaînes de télévision qui font ça très bien disparaissent au profit d'intelligence artificielle et voient leur emploi disparaître? Comment vous voyez le marché de développement, c'est-à-dire des choses nouvelles qui ne sont pas encore utilisées, dont ne profitent pas les personnes malentendantes, et donc amener à plus de choses que de prendre la place des autres, c'est ça?
Vous parliez effectivement du risque des traducteurs réels, j'ai envie de dire, de disparaître. On est dans une situation aujourd'hui en France où il n'y a pas assez de traducteurs.
D'accord.
Corrigez-moi si je me trompe, on a 400 traducteurs.
C'est ça.
Il en faudrait 4000.
Ouais, quand même.
Donc il manque beaucoup de traducteurs et cette solution permettrait en fait de pallier à ce problème de manière, j'ai envie de dire, universelle un petit peu.
Mm-hmm. Est-ce que vous sentez derrière votre projet des gens qui vous soutiennent, qui s'intéressent justement au problème des personnes handicapées d'une certaine manière?
On a assez de soutien des personnes qu'on a contactées. Dans le sens où on leur demande d'abord des retours sur notre projet, ce qu'ils en pensent, vu que souvent c'est des personnes en contact et en lien avec des malentendants. Les retours sont assez positifs. Après, le souci qui arrive en ce moment, c'est qu'on a du mal à récupérer de la crédibilité du fait que la langue des signes est une langue complètement nouvelle par rapport à la nôtre, et que offrir une solution de traduction sur une langue qu'on ne maîtrise pas, on a un petit manque de crédibilité par rapport à ça. C'est pour ça qu'on souhaite se former assez rapidement à la langue des signes pour comprendre sa grammaire et ses enjeux, qui sont assez différents de la langue française.
Voilà, donc on ne doute pas de votre capacité d'adaptation et de votre intelligence pour vous approprier très vite tout ça, pour en faire quelque chose de dynamique très rapidement.
On espère, on espère.
Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu dans votre process, hein, comment ça fonctionne et comment vous voyez par rapport à... On parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment... Est-ce que ça y contribue d'un côté positif ou négatif? Comment vous voyez l'avenir aussi, d'une manière globale, dans le domaine de l'intelligence artificielle?
Moi, je vais peut-être déjà répondre par rapport à notre projet. Par rapport à notre projet, l'intelligence artificielle nous permettrait d'avoir un algorithme en fait, qui interprète les phrases et qui permettrait du coup d'interpréter et de signer exactement l'émotion, puisque la langue des signes est... très représentante en ce qui concerne les émotions et les mots, parce qu'elle est composée de ce qu'on a compris, en fait, de mots neutres auxquels on rajoute des adjectifs que l'on mime, finalement, que l'on signe, pardon.
Alors, c'est vrai que quand on voit des personnes qui font la traduction en langue des signes, elles ont souvent des visages très expressifs qui accentuent le propos pour bien le rendre, pour que ce soit plus, j'allais dire, lisible d'une certaine manière.
C'est ça, c'est exactement ça. L'émotion et les adjectifs, on va dire, se transmettent par des émotions faciales et de l'ampleur au niveau des gestes que l'on fait.
Mmh.
C'est-à-dire que dans la langue des signes, on pense souvent simplement au mouvement des mains ou des bras, mais c'est beaucoup plus que ça, ça va prendre en compte tout le haut du buste. Et en fait, déjà que quand on parle à l'oral, c'est au moins 70% de la communication qui est faite est non-verbale, c'est-à-dire qu'elle se fait par le corps, et en langue des signes, ça c'est... C'est simplement énormément accru. C'est-à-dire que toutes les petites choses qu'on fait ont énormément de valeur. C'est-à-dire que même la façon dont je vais positionner un doigt sur ma main va pouvoir changer le sens de ce que je dis. La façon dont je vais m'exprimer, avec mon visage, la façon dont mon corps va s'orienter, comment je vais me tourner, à quelle vitesse je vais tout faire. Il y a énormément de choses à prendre en compte quand il s'agit de comprendre ce qui est dit. Et en effet, les émotions peuvent être transmises grâce à ça.
Donc là, les personnes qu'on voit habituellement vont être remplacées, dans votre cas, hein, par des avatars, donc des d'une certaine manière des dessins animés qui bougent en fonction des gestes à accomplir, c'est un peu ça?
Ça s'articulerait plus autour d'un avatar un petit peu qui se superposerait à la présentation qui est diffusée. Dans le cas où aucune diffusion n'est derrière le présentateur pour l'appuyer, la personne utilisant Gesture pourra en fait obtenir quand même sa traduction via une application sur son téléphone. Et voilà à peu près quoi.
L'avatar, quant à lui, sera assez personnalisable, donc on pourra vraiment s'adapter. Et on vise principalement, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, les secteurs qui sont en manque d'accessibilité pour les malentendants. Donc pour l'instant, les métiers de traducteurs... ce n'est pas vraiment notre cible vu que le milieu est est suffisamment développé en fait pour être accessible par la plupart des malentendants. Donc c'est vraiment rendre l'accessibilité aux malentendants sur des contenus qui n'ont pas accès.
Alors, 100 000 personnes, vous disiez, est-ce que pour vous, en termes d'application, l'investissement à réaliser pour atteindre ces 100 000 personnes, ça vaut le coup? Je veux dire, est-ce que derrière, vous sentez, entre guillemets, un marché, enfin des besoins auxquels vous répondez, qui valent le coup de vous investir à 8 dans une équipe pour réaliser ce projet?
Dans tous les cas, je pense que ça reste un projet étudiant et qu'il est assez noble. Donc, dans tous les cas, rendre accessible un contenu par rapport à des personnes, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'handicap, mais ça reste assez noble et ça reste nécessaire, je pense, pour avancer dans la société et par rapport à l'apprentissage, comme disait Adrien tout à l'heure. Et quant à ça, par rapport à la suite, nous comptons nous développer un peu plus que sur la langue des signes française. Et peut-être s'attaquer à d'autres langues des signes et après pouvoir mélanger un petit peu les différentes langues. Donc on s'attaquerait à un marché un peu plus grand, si on parle de marché.
Et pour ce qui était de... Vous en parlez tout à l'heure du fait qu'on puisse peut-être remplacer des traducteurs. Il y a une chose à comprendre, c'est aujourd'hui, les machines, l'intelligence artificielle, c'est, si on peut parler entre guillemets, une science inexacte, dans le sens où la traduction qu'on va proposer, elle ne peut pas être parfaite. C'est-à-dire que là, on peut s'entraîner sur des milliers de cas. Il y aura toujours un moment où une personne va parler un peu spécialement, avec un certain accent, avec des mots bien à elle, et on ne saura pas tout simplement le traduire, on va mal le traduire, mal interpréter. Et pour ces raisons-là, il y a certains métiers dans lesquels la traduction ne peut pas se permettre d'être erronée sur le moindre mot. Et là, ce seront des secteurs que nous, on ne va pas intéresser si notre solution ne sera pas assez précise. Alors évidemment, nous, on cherche à être le plus précis possible, mais on est quand même conscient que c'est quelque chose d'impossible. Et j'imagine que le domaine politique, notamment, on ne s'y attaquera probablement pas, parce qu'on ne sera pas capable de produire une solution assez précise dans ce domaine-là, et que les politiques voudront toujours avoir des choses absolument exactes, qu'importe ce qui est dit.
Voilà, donc là, l'idée, c'est de faire face à des besoins au quotidien de base d'un public que vous avez bien ciblé.
C'est ça.
Donc, vos échéances, on a une idée, un an pour avoir quelque chose qui se tienne déjà?
Vu que ça reste un projet étudiant, on est un petit peu encadré par rapport à ça. C'est-à-dire que donc, cette année, jusqu'à la fin de l'année, on va dire vers juin, l'année scolaire, on a une phase d'idéation où on va vraiment apprendre à développer le projet, à s'attaquer aux partenaires qu'on peut avoir et trouver un petit peu des malentendants qui pourraient nous aider à développer notre solution et rien qu'à voir si elle est viable ou bien pensée pour eux. La seconde année, du coup, par rapport à notre cursus à l'école, c'est une année à l'étranger. Donc durant laquelle on va devoir développer quand même quelque chose, le début du projet en fait, tout en étant à l'étranger. Donc ça va être compliqué, mais on va s'attaquer à ce qu'on appelle un MVP, donc un produit minimal pour voir un petit peu la viabilité du projet. Et en cinquième année, normalement, on aura un projet assez conséquent pour être présenté et un peu plus commercial. Peut-être pas commercial, mais il y aura déjà une bonne base de fait.
Est-ce que vous avez pensé, dans votre équipe de 8, vous répartir les pays avec des langues très différentes pour avoir une culture globale plus importante?
Ça peut tout à fait être envisageable. Chaque langue est bonne à prendre. On a besoin de linguistes, et si on est capable de s'adapter un petit peu, d'apprendre des autres langues, ça ne peut être que bénéfique.
Vous êtes à 8, comment vous fonctionnez, comment vous distribuez les rôles et comment vous complétez d'une certaine manière dans ces équipes qui sont au départ formées dans la même école?
Actuellement, on fait, donc comme on est encore dans une phase d'idéation, on se forme plus à ce qu'on préfère faire et à ce qu'on se sent capable de faire. Par exemple, pour ma part, en fait, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est gestion des papiers, contact avec les différentes personnes, parce que j'ai plus de temps et j'ai un peu plus l'habitude de prendre contact avec les entreprises et les associations qui nous concernent. On aura d'autres personnes dans notre groupe qui sont plus aptes à juger les différentes technologies qu'on est susceptible d'utiliser, ou d'autres qui épaulent un petit peu les autres, ou qui gèrent un petit peu donc ce qu'on appelle, on essaie de travailler avec ce qu'on appelle des méthodes agiles, donc qui gèrent un petit peu la gestion pour voir un petit peu les timelines et driver un petit peu tout le monde pour que ce soit plus simple.
Donc ce point d'étape particulier, on va dire un mois plus quelques jours, est-ce que vous avez des besoins auxquels peut-être des auditeurs pourraient répondre, vous aider peut-être?
C'est-à-dire que nous, même si on a déjà commencé à prendre contact avec des linguistes notamment, on a eu certains retours et ce sont des personnes qui travaillent et qui n'ont pas forcément énormément de temps à accorder à notre projet parce qu'ils ont un travail à côté, ce qui est parfaitement normal. Et nous, ce dont on aurait vraiment besoin pour continuer le projet, c'est des personnes qui sont capables d'expliquer et de nous aider à expliquer à la machine, entre guillemets, comment faire de la traduction. Donc, du coup, des interprètes, des traducteurs qui seraient potentiellement en formation et qui pourraient participer à notre projet, peut-être dans le cadre même de leurs études, pour nous aider à développer notre programme.
Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des écoles dans la région, il doit exister, hein, en langue des signes, qui sont partenaires aussi de vos projets ?
On n'a pas encore eu de partenariat. On a contacté des professeurs de, je ne sais pas si on dit encore Lille 3, qui s'est occupé de la formation du coup de langue des signes française. Et on a vu un petit peu avec eux l'ampleur du projet. On n'a pas encore contacté d'étudiants, puisqu'on n'a pas eu l'opportunité de rencontrer. Mais c'est vrai que ce serait intéressant pour nous de parler avec des personnes motivées par le but du projet et qui pourraient aussi être de notre âge pour parler. Je pense que le dialogue sera plus facilement et sera plus intéressant pour les deux parties.
Alors, on ne l'a pas abordé en début d'entretien. Est-ce que par rapport à ce problème particulier, la compréhension par des personnes malentendantes, vous avez une affinité particulière ou une motivation personnelle par rapport à ça ?
Le projet est né de quelqu'un dont un membre de la famille est malentendant. Déjà, la première motivation vient de là. Ensuite, c'est un projet qui, Baptiste en avait parlé tout à l'heure, mise sur l'évolution de l'accessibilité dans le monde du direct. Il ne faut pas oublier que c'est une directive de l'ONU de rendre un maximum de contenu accessible à tout le monde. C'est donc ce genre de motivation qui nous motive et nous fait continuer.
Alors, l'ONU prescrit des orientations, on va dire. Est-ce qu'elle fournit aussi des moyens?
L'ONU, en effet, peut fournir des moyens. On a un exemple avec un de nos concurrents qui est Signal, qui lui reçoit des subventions de l'Union européenne. Donc dans ces cas-là, dans des projets qui répondent à ces problématiques, l'ONU peut apporter des aides.
Donc est-ce que ces aides européennes passent par une diversité des langues que vous auriez à traiter, ou est-ce qu'on peut rester sur le langage français de la langue des signes? Est-ce que ça peut aider d'avoir une ouverture vers d'autres en termes de projets?
En effet, l'Union européenne possède plusieurs langues dans son enceinte, si je puis dire, et rien ne nous empêcherait après de nous élargir aux langues voisines. Qu'elles soient anglaises, qu'elles soient espagnoles, pourquoi pas si...
Est-ce que vous pourriez nous donner un contact, un site web ou un espace où retrouver votre projet pour, on va dire, permettre à nos auditeurs d'approfondir un petit peu et de vous suivre aussi dans le temps, si ça intéresse les gens?
Par rapport à ça, vu que le projet est quand même assez récent, ça fait quasiment 2 mois qu'on est dessus, on a commencé quand même à créer un petit peu de contact. Donc par rapport à ça, nous avons créé une page Facebook qui s'appelle Gesture. Qui est sur Facebook, et je sais pas au niveau référencement comment on se place, donc je pense que l'icône c'est une main colorée, et de mémoire la page s'appelle Gesture. Sinon, plus simple, on a une adresse qui s'appelle gesture.contact@gmail.com, où dessus on centralise tous les contacts qu'on a avec les personnes si elles sont intéressées pour nous aider ou de manière diverse et variée.
Voilà, Gesture, G-E-S-T-U-R-E, bien sûr.
J'aimerais préciser effectivement qu'en plus de ces contacts que nous avons mis en place, comme c'est un projet étudiant, nous sommes aussi encadrés par l'école. Rien n'empêche les gens intéressés de contacter l'école, qui derrière nous contacte sans aucun souci.
Voilà, donc Epitech à Lille, on a donné l'adresse un peu tout à l'heure.
Qui se situe à Lille, au niveau de Rio. On n'a pas forcément d'adresse mail à donner.
C'est à côté, juste à côté de Rio.
C'est ça, juste à côté de la place Rio, derrière le printemps.
Voilà. Est-ce que vous auriez éventuellement un élément à ajouter pour compléter ce qui a été dit là, ou un besoin à exprimer?
Pas spécialement. Pour un projet qui est mature de 2 mois, personnellement, je trouve que le projet est assez noble, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis vraiment heureux qu'on ait énormément de soutien en ce qui concerne les Enactus, par exemple, qui nous accompagnent au niveau du projet global, ou des différentes associations. Des retours qu'on a, en général, c'est assez positif, ça montre qu'il y a de l'engouement pour le projet. On s'est fait plaisir.
Donc bonne chance à tous et puis n'hésitez pas à revenir faire un point d'étape en juin, pourquoi pas.
Pas de souci,
on n'y manquera pas.
Très bonne journée.